Afrique, les infos à Washington.
Jean Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 janvier 2021. Bonjour, bienvenue. La CEDEAO a dit mardi au Mali ne pas avoir à ce stade de raison de douter que les autorités de transition tiennent le délai de 18 mois pour restituer le pouvoir aux civils. En revanche, la CEDEAO, par la voix de son chef de délégation, Goodluck Jonathan, se dit très préoccupé par les récentes accusations de tentatives de déstabilisation ou de coup d'État mettant en cause plusieurs personnalités, dont l'ancien premier ministre Boubou Cissé. Et l'émissaire de la CEDEAO insiste pour que les personnes qui n'ont rien à voir avec cette rumeur ou bien cette tentative de déstabilisation puissent être libérées le plus rapidement possible. L'Ouganda a ordonné mardi aux opérateurs Internet de suspendre l'accès aux réseaux sociaux et services de messagerie jusqu'à nouvel ordre, deux jours avant une élection présidentielle tendue. Les Ougandais voteront demain jeudi lors d'élections présidentielles et législatives où le président sortant Yoweri Museveni, 76 ans au pouvoir depuis 1986, affronte l'opposant Bobi Wine, 38 ans, au terme d'une campagne électorale plus violente que les précédentes. Des candidats de l'opposition ont été arrêtés et empêchés de faire campagne. Leurs supporters ont été visés par des gaz lacrymogènes et parfois pas des balles réelles. L'Éthiopie a affirmé mardi que des forces armées du Soudan avançaient dans une région frontalière revendiquée par les deux pays et a averti Khartoum que son attitude pacifique sur cette question avait des limites. Les deux voisins d'Afrique de l'Est se disputent la région frontalière d'El Fachaga, 250 km² de terres agricoles fertiles convoitées par les agriculteurs des deux pays. Au moins 6 soldats nigériens ont été tués lundi dans un attentat suicide déclenché lors d'affrontements avec un groupe djihadiste dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. Un kamikaze du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a foncé avec un véhicule bourré d'explosifs sur des troupes qui menaient une offensive sur Talala, un village dans le district de Damboa où s'étaient retranchés les djihadistes. Le ministère tunisien de la Santé a décidé mardi d'imposer un confinement général de 4 jours à partir de demain jeudi pour limiter la propagation du Covid-19 qui a atteint des records, entraînant une situation très dangereuse en Tunisie. Ces mesures de confinement qui incluent un couvre-feu renforcé entrent en vigueur le jour du 10e anniversaire de la Révolution, entravant toute commémoration de la fuite de Zine El Abidine Ben Ali le 14 janvier 2011 dans un contexte de tension sociale. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, ont étendu mardi l'obligation de présenter un test négatif de dépistage du coronavirus à tous les passagers du secteur aérien souhaitant entrer aux États-Unis. Dans un communiqué, les CDC ont indiqué que le test doit être effectué dans les 3 jours précédant le vol. Le vice-président américain Mike Pence a refusé mardi d'invoquer le 25e amendement de la Constitution pour démettre le président Donald Trump dans une lettre à la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Après ce refus, les démocrates devraient lancer aujourd'hui une nouvelle procédure de destitution contre le président sortant. Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que la procédure d'impeachment que les démocrates veulent lancer contre lui était totalement ridicule et provoquait une immense colère chez ses partisans. Le ministère américain de la Justice a ouvert des enquêtes criminelles sur plus de 170 individus pour leur implication dans les violences commises la semaine dernière au Capitole par des partisans de Donald Trump, a annoncé mardi le procureur fédéral de Washington. Je pense que la portée et l'ampleur de cette enquête et de ces cas sont vraiment sans précédent, non seulement dans l'histoire des États-Unis, mais probablement dans celle du département de la justice, a déclaré Michael Sherwin lors d'un point de presse. VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, le secrétaire général de l'ONU au sujet de la présidentielle en Ouganda, il invoque l'impartialité des forces de l'ordre. Les meurtres continuent dans l'est de la RDC, plus d'un millier de civils ont trouvé la mort au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et ici aux États-Unis, Derek Chauvin, le meurtrier de George Floyd, passera devant le juge et ce sera dans le mois de mars. Jean-Roger Billon à ce micro. Nous sommes le mercredi 13 janvier 2021. Pardon. Nous émettons de Washington. À tout à l'heure. La suite de nos informations en ce mercredi 13 janvier 2021, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte les autorités ougandaises, particulièrement les forces sécuritaires, à agir en respectant les normes relatives aux droits de l'homme. L'Ouganda tient demain jeudi des élections présidentielles et législatives très tendues. Michel Joseph.
Stéphane Dujarric, porte-parole onusien, dit que Antonio Guterres suit étroitement la situation et encourage tous les acteurs politiques et leurs partisans à mener leurs activités de manière pacifique et à s'abstenir de toute incitation à la violence ou à des discours de haine. Pour la présidentielle, Yoweri Museveni, 76 ans, fait face à 10 candidats. Il a sillonné le pays, coiffé de son emblématique chapeau. Sa campagne met en avant une image bienveillante, faisant des pompes en public et malgré son âge, ne cache pas son courroux face à Bobby Wine. L'ancien chanteur devenu député s'est imposé comme le principal challenger. Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, avait 3 ans lorsque Museveni est arrivé au pouvoir. Il promet de mettre fin à la corruption, responsable selon lui de l'absence de débouchés pour les jeunes. Après avoir été arrêté plusieurs fois, Bobby Wine a troqué ses costumes et son béret rouge pour un gilet pare-balles et un casque. Il a appelé les électeurs ougandais à voter massivement et à protéger leur vote. L'Ouganda a ordonné mardi aux opérateurs Internet de suspendre l'accès aux réseaux sociaux et services de messagerie jusqu'à nouvel ordre.
Dans l'est de la RDC, plus de 1200 civils ont été tués en un peu plus d'un an dans la région de Beni selon le mouvement de lutte pour le changement Lucha. Le point avec Eddy Sango.
Une marche est prévue demain jeudi pour dénoncer ces tueries qui semblent s'être accrues selon la Lucha. Le jeune de ces mouvements citoyens dénonce la dérive qu'occasionnent les opérations de l'armée régulière. Pour eux, plutôt que d'arrêter les tueries et de neutraliser les assaillants, les opérations militaires déclenchées le 30 octobre 2019 vont disperser les rebelles ADF sur des zones assez vastes. À majorité ougandaise, les rebelles ADF, des musulmans qui ont fait allégeance au groupe État islamique, continue ainsi, d'après la Lucha, à massacrer des civils. La Lucha soutient avoir noté une expansion des tueries vers Rwenzori et une partie de la province voisine de l'Ituri. Les experts de l'ONU affirment que les ADF opèrent en petits groupes mobiles et se déplacent de l'extrême nord vers la partie sud-est du parc national des Virunga. Ils ont exécuté 50 otages dans leur fuite face à une offensive de l'armée à l'Ossé-Lossé dans les Rwenzori, selon l'armée.
Ici aux États-Unis, le procès de l'ancien policier Derek Chauvin, inculpé pour le meurtre de l'Africain-Américain George Floyd, s'ouvrira comme prévu le 8 mars. C'est la décision annoncée mardi par un juge, Abdourahman Dia.
L'accusation et la défense avaient demandé un report de l'ouverture du procès des 4 policiers, notamment à cause de la pandémie de COVID-19. Même dans la plus grande salle du tribunal de Minneapolis, il sera impossible de respecter des règles de distanciation physique en cas de procès conjoint, a reconnu le juge Peter Cahill dans sa décision. Il a toutefois ordonné de maintenir à la date prévue le procès de Derek Chauvin, 44 ans, qui s'était agenouillé pendant plus de 8 minutes sur le cou de George Floyd le 25 mai à Minneapolis. Ses 3 co-accusés et anciens collègues inculpés de complicité seront eux jugés ensemble à partir du 23 août. Les 4 hommes ont tous été remis en liberté sous caution. Les accusés ont plaidé avoir fait un usage raisonnable de la force face à un homme qui se débattait. Mais des lignes de fracture sont apparues entre eux et ils semblaient tenter de se rejeter la responsabilité du drame. Le calvaire de George Floyd, filmé et mis en ligne par une passante, a suscité une vive émotion et conduit des millions de personnes à descendre dans les rues de plusieurs villes des États-Unis pour réclamer des réformes de la police et la fin des inégalités raciales.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco, présentée par Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation propose la création d'une usine de fabrication de téléphones portables sur la base des frais de prélèvement du registre des appareils mobiles. Le coordonnateur du PMVS, Ludovic Kalengayi, a estimé que l'usine aura pour commencer une capacité d'assemblage de 1500 smartphones, 2000 téléphones et 800 tablettes par jour. Les smartphones seront vendus à $34 et les téléphones simples à $5. En République du Congo, le gouvernement a lancé hier le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises qui garantira les prêts auprès des banques et établissements de microfinance. Ce fonds permettra notamment de financer les programmes de renforcement des capacités des start-up. Le Bénin, en partenariat avec la Confédération des institutions financières d'Afrique de l'Ouest, organise les 14 et 15 janvier un webinaire sur la microfinance et la réponse sociale à la crise due à la pandémie. Bien que les systèmes financiers inclusifs soient partie intégrante de la solution, il y a lieu de réfléchir sur comment adapter plus efficacement leurs interventions, a déclaré Véronique Tony-Faudet, ministre des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin, à l'approche de cette conférence en ligne.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La liste des 23 lions indomptables locaux qui ouvriront le championnat d'Afrique des Nations face au Zimbabwe le 16 janvier est connue. Le sélectionneur Martin Dungu Mpile a dévoilé les noms des joueurs retenus pour cette compétition que ses poulains disputent à domicile. En attaque, les Camerounais seront amenés par Jacques Zoua, vainqueur de la CAN 2017 avec la sélection A, ancien attaquant du Gazélec Ajaccio, du FC Bâle d'Hambourg et de Kaiserslautern. Yannick Ndjeng, ancien buteur de l'Espérance de Tunis et lui aussi international A, sera à ses côtés. La compétition regroupera 16 équipes et se disputera du 16 janvier au 7 février. Belle consolation pour le Raja Casablanca, sorti à la surprise générale par les Sénégalais de Teguff FC. Avant même la phase de groupe en Ligue des Champions, les Marocains ont arraché leur ticket pour la finale de la Coupe arabe des clubs champions. Après sa défaite au match aller 1-0 en Égypte, le Raja a corrigé Ismaili 3-0 à Casablanca lors de la manche retour en demi-finale. En finale, les Rajaouis feront face aux Saoudiens d'Al Ittihad à une date à déterminer. Le vainqueur de la compétition empochera 6 millions de dollars. Et puis, les Jeux Olympiques ne seront pas annulés. Les organisateurs des JO de Tokyo ont démenti la tenue de discussion en février au sujet d'une éventuelle annulation des Jeux prévus en juillet. Après leur report l'an dernier du fait de la pandémie, le directeur général du comité d'organisation, Toshiro Muto, a qualifié de fausses informations des spéculations de médias japonais selon lesquelles le sort des JO devrait être discuté en février avec le comité international olympique. Face à une recrudescence des cas de coronavirus, le Japon a déclaré l'état d'urgence la semaine dernière à Tokyo et ses régions limitrophes. Dans le dernier sondage de l'agence de presse Kyodo, 45% des personnes interrogées ont souhaité que les Jeux soient reportés une seconde fois et 35% se sont dites favorables à une annulation pure et simple. Ici aux États-Unis, la Ligue nord-américaine de basketball NBA a annoncé le report du match prévu ce soir entre Boston et Orlando à cause du coronavirus. Les Celtics n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de 8 par équipe est requis, cette rencontre est la cinquième reportée en NBA depuis 3 semaines qu'a débuté la saison régulière et la 3e pour la franchise du match à sucette qui devait affronter Miami dimanche et Chicago hier. Du côté de Washington, les Wizards ont annulé leur séance d'entraînement alors que 2 de leurs joueurs non identifiés doivent aussi se soumettre au protocole sanitaire lié au Covid-19.
Vous êtes croyant, animiste ou athée, VOA Afrique vous accorde une tribune dans Dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manilakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des religions.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie.
VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal+.
Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Jean-Roger Billon toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Au Cameroun, éleveurs et agriculteurs se sont mis d'accord sur des mécanismes de résolution des conflits agro-pastoraux. C'est notamment le cas au nord de Yaoundé, dans l'arrondissement de Bokito, à quelques 150 km de la capitale. Des éleveurs Peul Mbororo, fuyant les exactions de Boko Haram et l'insécurité dans la région anglophone du Nord-Ouest, ont installé des campements dans des villages d'agriculteurs. Des conflits ont vite émergé, comme dans le village de Botombo, où un mécanisme de médiation est désormais opérationnel entre les deux parties. Les détails avec notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Jules Ntap.
C'est le papier que j'ai arrangé entre les éleveurs.
Soulé Lakoudi est un Mbororo venu s'installer dans le village Botombo, au nord de Yaoundé, dans le département du Mbam et Inoub.
Ça, le bœuf entré dans le sang de tomate de chez monsieur.
Je dis qu'est-ce qu'il faut? Il me dit que Soulé, donne-moi 150 000. Monsieur, moi, tu aides avec 115 000. Il me dit qu'il n'y a pas de problème.
Soulé est le médiateur des éleveurs Mbororo lors des conflits agro-pastoraux. Sa médiation consiste à compenser financièrement, au terme des négociations, les agriculteurs dont les cultures ont été détruites par les bovins.
Il y a le bœuf qui a avancé dans le sang des ignames. Personne dit que non, moi, il lui donne 12 millions. Il a donné 500 000, donc ça n'était même pas 2 mois.
C'était où?
C'était à Nyamanga.
C'est ainsi que plus de 2 500 000 francs CFA ont été versés aux agriculteurs des villages Botombo, et Yamben et environnant en 2020. Ce mécanisme de médiation n'a pas cependant été vite accepté par les agriculteurs.
Le gros bétail, n'en étions pas habitués. La cohabitation, nous l'ignorions.
Sa Majesté Michel Mebine Amata est le chef du village Botombo, où se trouve un campement d'éleveurs Mbororo avec plus de 2000 têtes de bœufs.
Les agriculteurs ne viennent pas paisiblement dire que le bœuf entre. Leur problème, c'est les représailles. Donc la première des choses, c'est qu'il faut calmer. Après, je convoque le chef éleveur. Quand il arrive, c'est lui qui me situe sur le troupeau qui a fait les gars. C'est lui qui m'aide à faire venir les propriétaires de ce troupeau. J'envoie ma petite commission locale sur le terrain, qui est composée des bergers et des agriculteurs. Quand ils reviennent ici à la chefferie, on essaye de faire les évaluations. L'agriculteur pose ses doléances pour la contrepartie, quoi.
Lors de la dernière campagne de vaccination, plus de 12 000 têtes de bœufs ont été recensées dans l'arrondissement de Bokito, selon Abdoulaye Wadiri, responsable départemental de l'Association pour le développement social et culturel de Mbororo à Bafia. Un nombre croissant depuis la première installation ici, il y a 8 ans.
Ça, qu'est-ce que j'ai dit? On fait la réunion à sous-préfecture à Bokito maintenant. Tous les chefs, avec les agriculteurs, avec les éleveurs, pour comprendre le conflit.
Pour pacifier davantage la cohabitation, la campagne de transhumance du bétail dans le département du Mbam et Inoubou est encadrée par les autorités administratives. Fred Emmanuel Ndongo, sous-préfet de Bokito.
Chaque année, les défis sont nouveaux. Nous souhaitons arriver à une situation où il n'y a plus de conflit. Une situation où chaque acteur d'un secteur se conduise de manière professionnelle en réduisant à leur plus simple expression toutes les situations qui pourraient nuire à l'activité de l'autre. Nous souhaitons ne plus être seulement là pour résoudre des litiges, mais vraiment pour les prévenir, de manière à ce qu'il y ait des éleveurs dont le bétail n'irait pas détruire les cultures, des agriculteurs qui profiteraient de la présence du bétail en termes d'engrais.
De sources officielles, le nombre des plaintes relatives aux conflits agro-pastoraux est en baisse ces 2 dernières années dans l'arrondissement de Bokito. Yaoundé, Emmanuel Jeunetap, VOA Afrique.
Au Gabon, le SAMU social fait le point de ses opérations de 2020. Plus de 17 000 personnes affectées de plusieurs pathologies ont été gratuitement soignées par ses équipes. La prise en charge de la grande précarité du pays fonde l'existence du service d'action médicale d'urgence, un maillon du dispositif sanitaire de l'État gabonais qui intensifie ses interventions de nuit. Au cœur des caravanes médico-humanitaires du SAMU social à Libreville, le reportage de notre correspondant Ismaël Obiang-Enze.
La journée de travail au SAMU social est rythmée par d'incessants appels téléphoniques.
Merci d'avoir appelé SAMU social gabonais. Bonne soirée.
C'est le quotidien de Fanny Angué et ses collègues assistants de régulation médicale.
On reçoit constamment des appels. Il y a certains appels pour plaisanter, maintenant il y a d'autres appels pour des problèmes qui sont vraiment sérieux.
Le call center du SAMU social reçoit en moyenne 200 appels jour, avec régulièrement au bout du fil, des situations urgentes. Il est 7h du soir, le jeune Régis Asoko vient d'être victime d'une agression à l'arme blanche par des bandits. Il est en train d'être pris en charge par les médecins.
Je revenais de chez ma belle-sœur, dans mon retour, là on m'a braqué. Ils ont pris le téléphone, c'est tout.
Les actions des maraudes sont de plusieurs ordres. Juste à côté de la salle des soins, une unité d'observation accueille deux nouveau-nés abandonnés par leur mère. Docteur Venceslas Yaba est le coordonnateur général du SAMU social.
Je vous présente Samuel et Samuela, qui sont deux enfants qui ont été jetés par leur mère respective à une semaine d'intervalle à Libreville, dans des poubelles. Nous avons recueilli au SAMU social depuis maintenant 6 semaines. Ils se portent très bien.
Dans le même temps, une autre équipe d'infirmières se prépare à une intervention de nuit. Elle répond à l'appel d'une jeune fille mère en travail. Janine Maroudou, infirmière, chef d'équipe.
Et là, nous préparons déjà des antihypertenseurs parce qu'on pense à une hypertension chez une patiente qui est à une semaine du postpartum.
À peine arrivée sur les lieux, le vacillement de la future maman entraîne une prise en charge immédiate. C'est qu'Odile Londou n'en pouvait plus des complications.
J'ai mal au bas-ventre, ça me lâche, ça reprend. Ça a commencé à 20 heures là.
La jeune fille qui pourrait accoucher dans les prochaines heures est conduite vers la structure hospitalière la plus proche. Il s'agit d'un cas de figure parmi tant d'autres que Dr Venceslas Yaba et ses équipes gèrent nuit et jour pour 0 franc. Car au SAMU social gabonais, les consultations, les traitements et les médicaments sont gratuits.
Si tu ne peux pas sortir de la maison parce que tu es malade, il n'y a plus de taxi, les actions se sont arrêtées à 20h. Tu appelles qui ? Le SAMU social.
Près de 38% de la population gabonaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Près de 300 000 n'ont accès à aucun soin, s'indigne le patron du SAMU social gabonais. Libreville, Ismaël Obionzé pour VO Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le climat politique tendu aux États-Unis à quelques jours de la prestation de serment de Joe Biden comme 46e président du pays. Les démocrates et quelques républicains au Congrès demandent le départ immédiat du président Trump, alors que d'autres estiment que l'heure est à l'apaisement après les violences au Capitole qui ont fait au moins 5 morts. Comment analyser les événements tragiques du 6 janvier? Une deuxième procédure de destitution contre Donald Trump est-elle appropriée? Comment se prépare l'investiture de Joe Biden? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Ici aux États-Unis, le secrétaire d'État Mike Pompeo a effectué lundi sa première visite au siège de la Voix de l'Amérique à Washington. Il a parlé de l'importance de la radio et de l'histoire de l'exceptionnalisme américain dans le monde. Compte rendu, Cindy Sen, récit Lionel Gaïma.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo est revenu sur certains thèmes qu'il a évoqués lors de ses voyages à l'étranger en tant que chef de la diplomatie américaine.
Je parle au public de l'exceptionnalisme américain chaque fois que je le peux. Parce que c'est vrai, l'Amérique est grande et généreuse. Tous ceux qui comprennent vraiment le fondement de notre pays le comprennent. Nous avons toujours recherché une union plus parfaite. Nous n'avons pas toujours raison. Nous avons besoin à la fois de fierté et d'humanité pour notre passé et notre présent. About our past
and our present. Pompeo est venu à la VOA quelques jours après que les partisans du président Donald Trump ont envahi le Capitole. Les images du chaos à l'intérieur du temple de la démocratie américaine ont fait la une des journaux du monde entier. Il a dénoncé ces violences la semaine dernière, mais depuis, il n'a fait aucun commentaire. L'expert Michael Kimmage du German Marshall Fund s'est dit choqué que Pompeo n'ait pas mentionné et n'ait pas été interrogé sur le siège du Capitole, non loin de la VOA.
Il était frappant que le secrétaire Pompeo n'ait pas mentionné les événements de la semaine dernière, qui sont d'une importance capitale. Et je pense qu'il était vraiment dans l'esprit de tout le monde. Et il est étrange qu'il les saute, mais remplissez le vide pour comprendre pourquoi il a pu le faire.
Le gouvernement américain finance la VOA et d'autres radios pour fournir des informations à des publics du monde entier dans des dizaines de langues étrangères. Pompeo a appelé la voix de l'Amérique la voix de l'exceptionnalisme américain. Il a déclaré que la radio internationale avait un rôle important à jouer dans la promotion des idéaux américains dans le monde et n'était pas le lieu pour servir de plateforme au régime autoritaire.
Governments like those in China.
Des gouvernements comme ceux de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord n'ont pas le respect de la dignité humaine sur laquelle l'Amérique a été fondée. Ces régimes sont l'apathème de tout ce que notre nation représente. Nous savons que le gouvernement existe pour servir le peuple. Ces régimes croient que les peuples existent pour servir le gouvernement. Le travail de la VOA est vital. Vous êtes le fer de lance de la liberté.
Le mandat de Pompeo en tant que chef de la diplomatie américaine doit prendre fin dans quelques jours. Le président élu Joe Biden a choisi l'ancien secrétaire d'État adjoint Anthony Blinken pour devenir le prochain secrétaire d'État américain s'il est confirmé par le Sénat.
VOA Afrique en direct de Washington.
La Chambre des représentants s'apprête à examiner et mettre au vote une mise en accusation du président Donald Trump à la suite des violences commises par ses partisans au Capitole à Washington. Les heurts ont fait 5 morts. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, nous situe sur les différentes options qu'étudient les démocrates pour faire partie Donald Trump quelques jours à peine avant la fin de son mandat. Le récit est signé Jacques Aristide.
Pratiquement une semaine après la prise d'assaut du Capitole par des manifestants pro-Trump pour arrêter le décompte des voix du collège électoral, certifiant la victoire du président élu Joe Biden, les élus démocrates, dont certains ont dû évacuer l'hémicycle lors de l'attaque du 6 janvier, passent maintenant à l'action pour tenter de destituer le président Donald Trump. Leur première option, une résolution appelant le vice-président Mike Pence et une majorité des membres du cabinet de Trump à invoquer le 25e amendement dans un délai de 24 heures pour déclarer le président inapte à assumer ses fonctions. Nancy Pelosi est la présidente démocrate de la Chambre des représentants.
Si le vice-président et le cabinet n'agissent pas, le Congrès peut être prêt à aller de l'avant avec la mise en accusation.
Malgré les appels des émeutiers à le pendre pour avoir refusé d'annuler les résultats de la présidentielle, Mike Pence ne devrait pas franchir ce pas. Un vote sur la mise en accusation pourrait plutôt avoir lieu dans le courant de la semaine. Le président Trump est accusé d'incitation à l'insurrection pour ses propos tenus sur son compte Twitter, désormais suspendu, et pour les déclarations adressées à ses partisans juste avant les émeutes du 6 janvier au Capitole.
Si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n'aurez plus de pays.
À un peu plus d'une semaine avant l'investiture de Joe Biden, les démocrates affirment qu'ils peuvent agir vite. Ted Lieu est un élu démocrate.
Tout cela était très public. Il s'agissait d'une incitation ouverte à amener les gens à empêcher le Congrès de certifier les résultats du collège électoral.
Cela ferait de Trump le premier président de l'histoire américaine à être mis en accusation deux fois. Paul Berman est de l'école de droit de l'université George Washington.
Un président en exercice incitant à une insurrection contre le gouvernement des États-Unis est peut-être la pire des choses qu'un président puisse faire. Et cette déclaration doit être faite. Deuxièmement, et de manière plus pragmatique, s'il était mis en accusation et condamné, cela l'empêcherait de se présenter aux élections à l'avenir.
Il y a un certain soutien républicain aux procédures engagées par le Congrès pour tenir Trump responsable de ses actes. Adam Kinzinger, un élu républicain qui a longtemps été critique de Trump.
Je pense que la meilleure chose à faire pour panser les plaies du pays serait qu'il démissionne. La deuxième est le 25e amendement.
Mais les démocrates ont déjà la majorité des voix pour la mise en accusation. Ils devraient vraisemblablement attendre jusqu'à plus tard cette année pour envoyer l'article au Sénat américain. Un procès en destitution devrait interrompre les autres travaux du Sénat, entravant les 100 premiers jours de mandat de Joe Biden avec une nouvelle majorité démocrate dans les deux chambres du Congrès.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Excellente journée à tous.